Chapitre 8e. C'était le 20 novembre 1797. Toute la matinée, on avait remarqué dans la prison un mouvement qui n'était pas ordinaire. Les détenus n'étaient pas sortis des cabanons. Les portes s'ouvraient et se refermaient à chaque instant avec fracas. Les guiches y allaient, venaient d'un air affairé. Dans la grande cour, on déchargeait des fers dont le bruit arrivait jusqu'à nous. Vers 11 heures, deux hommes vêtus d'un uniforme bleu entrèrent au fort Mahon, où depuis 8 jours j'avais été replacé avec mes camarades d'évasion. C'était le capitaine de la chaîne et son lieutenant. « Eh bien, » dit le capitaine, en nous montrant ce sourire qui annonce une familiarité bienveillante, « y a-t-il ici des chevaux de retour, des forçats évadés ?» Et tandis qu'il parlait, c'est à qui s'empresserait pour lui faire sa cour. « Bonjour, monsieur Viez, bonjour, monsieur Thierry, » s'écriait-on de toutes parts. Ces saluts étaient même répétés par des prisonniers qui n'avaient jamais vu ni Viez ni Thierry, mais qui, en se donnant un air de connaissance, espérait se les rendre favorables. Il était difficile que le capitaine, c'était Viez, ne s'enivrât pas un peu de ces hommages. Cependant, comme il était habitué à de pareils honneurs, il ne perdait pas la tête, et il reconnaissait parfaitement les siens. Il aperçut des fosseux. « Ah, dit-il, voilà un ferlampier, condamné habile à couper ses fers, qui a déjà voyagé avec nous. Il m'est revenu que tu as manqué d'être fauché, guillotiné, à Douai, mon garçon. Tu as bien fait de manquer, pardieu. Car vois-tu, il va encore mieux retourner au pré, au bagne, que le tôle, le bourreau, ne joue au panier avec notre Sorbonne, notre tête. Au surplus, mes enfants, que tout le monde soit calme, et honorera le bœuf avec du persil. » Le capitaine ne faisait que commencer son inspection. Il la continua en adressant d'aussi aimables plaisanteries à toute sa marchandise. C'était de ce nom qu'il appelait les condamnés. Le moment critique approche. Nous descendons dans la cour des fers où le médecin de la maison nous visite pour s'assurer si tout le monde est à peu près en état de supporter les fatigues de la route. Nous sommes tous déclarés bons, quoique plusieurs d'entre nous se trouvent dans un état déplorable. Chaque condamné quitte ensuite la livrée de la maison pour revêtir ses propres habits. Ceux qui n'en ont point reçoivent un sarrau et un pantalon de toile, bien insuffisant pour se défendre des froids et de l'humidité. Les chapeaux, les vêtements un peu propres qu'on laisse aux condamnés sont lacérés d'une manière particulière, afin de prévenir les évasions. On ôte, par exemple, au chapeau le bord et le collet aux habits. Aucun condamné ne peut enfin conserver plus de 6 francs. L'excédent de cette somme est remis au capitaine qui vous le délivre en route au fur et à mesure qu'on en a besoin. On élut toutefois assez facilement cette mesure en plaçant des louis dans des gros sous creusés autour. Ces préliminaires achevés, nous entrâmes dans la grande cour où se trouvaient les gardes de la chaîne, plus connus sous le nom d'Argousins. C'étaient pour la plupart des Auvergnats, porteurs d'eau, commissionnaires ou charbonniers, qui exerçaient leur profession dans l'intervalle de ces voyages. Au milieu d'eux était une grande caisse de bois, contenant les fers qui servent successivement à toutes les expéditions du même genre. On nous fit approcher 2 à 2, en ayant soin de nous appareiller par rang de taille, au moyen d'une chaîne de 6 pieds réunie aussitôt au cordon de 26 condamnés qui, dès lors, ne pouvaient plus se mouvoir qu'en masse. Chacun tenait à cette chaîne par la cravate, espèce de triangle en fer, qui s'ouvrant d'un côté par un boulon charnière, se ferme de l'autre avec un clou rivé à froid. C'est là la partie périlleuse de l'opération. Les hommes les plus mutins ou les plus violents restent alors immobiles, car au moindre mouvement, au lieu de porter sur l'enclume, les coups leur briseraient le crâne, que frise à chaque instant le marteau. Arrive ensuite un détenu qui, armé de longs ciseaux, coupe à tous les forçats les cheveux et les favoris en affectant de les laisser inégaux. À 5 heures du soir, le ferment fut terminé. Les Argousins se retirèrent. Il ne resta dans la cour que les condamnés. Livrés à eux-mêmes, ces hommes, loin de se désespérer, s'abandonnaient à tous les écarts d'une gaieté tumultueuse. Les uns vociféraient d'horribles plaisanteries répétées de toutes parts avec les intonations les plus dégoûtantes. Les autres s'exerçaient à provoquer par des gestes abominables le rire stupide de leurs compagnons. Ni les oreilles ni la pudeur n'étaient épargnées. Tout ce que l'on pouvait voir ou entendre était ou immoral ou inophonique. Il est trop vrai qu'une fois chargé de fer, le condamné se croit obligé de fouler aux pieds tout ce que respecte la société qui le repousse. Il n'y a plus de frein pour lui que les obstacles matériels. Sa charte est la longueur de sa chaîne, et il ne connaît de loi que le bâton auquel ses bourreaux l'ont accoutumé. Jeté parmi les êtres à qui rien n'est sacré, il se garde bien de montrer cette grave résignation qui annonce le repentir, car alors il serait en butte à mille railleries, et ses gardiens, inquiets de le trouver si sérieux, l'accuseraient de méditer quelque complot. Mieux vaut, s'il aspire à les tranquilliser sur ses intentions, paraître sans souci à toute heure. On ne se défie pas du prisonnier qui se joue avec son sort. L'expérience de la plupart des scélérats qui se sont échappés des bagnes en fournit la preuve. Ce qu'il y a de certain, c'est que parmi nous, ceux qui avaient le plus grand intérêt à s'évader étaient les moins tristes de tous. Ils étaient les bouts en train. Dès que la nuit fut venue, ils se mirent à chanter. Que l'on se figure 50 coquins, la plupart ivres, hurlant des airs différents. Au milieu de ce vacarme, un cheval de retour entonna d'une voix de stentor quelques couplets de la complainte des galériens. La chaîne, c'est la grêle, mais c'est égal, ça ne fait pas de mal. Nos habits sont écarlates, nous portons au lieu de chapeaux, des bonnets et points de cravate. Ça fait brosse pour les jabots, nous aurions tort de nous plaindre. Nous sommes des enfants gâtés, et c'est crainte de nous perdre que nous nous tient enchaînés. Nous ferons des belles ouvrages en paille ainsi qu'en coco, dont nous font étalage sans que nos boutiques payent d'impôts. Ceux qui visitent le bagne ne s'en vont jamais sans acheter avec ce produit de l'aubaine, nous nous arrosons le gosier. Quand vient l'heure de se bourrer le ventre, en avant les haricots. Ce n'est pas bon, mais ça entre, tout comme le meilleur fricot, notre guignon eût été pire. Si, comme des jolis cadets, on nous eût fait raccourcir, à la veille de moins un regret. Tous nos compagnons n'étaient pas également heureux. Dans le troisième cordon, composé des condamnés les moins turbulents, on entendait crier des sanglots, on voyait couler des larmes amères. Mais ces signes de douleur ou de repentir étaient accueillis par les huées et les injures des deux autres cordons, où je figurais en première ligne, comme un sujet dangereux par son adresse et son influence. J'avais près de moi deux hommes, l'un, ex-maître d'école, condamné pour viol, l'autre, ex-officier de santé, condamné pour faux, qui, sans montrer ni allégresse ni abattement, causaient ensemble du ton le plus calme, le plus naturel. « Nous allons en Brest, » disait le maître d'école. « Oui, » répondait l'officier de santé, « nous allons en Brest. Je connais le pays, moi. J'y suis passé étant sous aide, dans la 16e demi-brigade. Bon pays, ma foi. Je ne suis pas fâché de le revoir. « Y a-t-on de l'agrément ?» reprenait le pédagogue, qui ne me faisait pas l'effet d'être très fort. « De l'agrément ?» disait son interlocuteur, d'un air un peu étonné. « Oui, de l'agrément. Je veux demander si l'on peut se procurer quelque douceur, si on est bien traité, si les vivres sont à bon marché. « D'abord, vous serez nourri, » répondait tranquillement l'interlocuteur, « et bien nourri, car au bagne de Brest, il ne faut que 2 heures pour trouver une gourgane dans la soupe, tandis qu'il faut 8 jours à Toulon. » Ici, la conversation fut interrompue par de grands cris, partis du second cordeau. On y assommait à coups de chaîne 3 condamnés, l'ex-commissaire des guerres Lemière, l'officier d'état-major Simon et un voleur nommé le petit matelot qu'on accusait ou d'avoir trahi leurs camarades par des révélations ou d'avoir fait manquer quelques complots de prison. Celui qui les signalait à la vengeance des forçats était un jeune homme dont la rencontre eût été une bonne fortune pour un peintre ou pour un acteur. Avec de mauvaises pantoufles vertes, une veste de chasse-d'œuf de ses boutons et un pantalon de nankin qui semblait défier les intempéries de la saison, il portait pour coiffure une casquette sans visière dont les trous laissaient passer le coin d'un vieux madras. On ne l'appelait à Bicêtre que Mademoiselle. J'appris que c'était un de ces misérables qui, livrés à Paris à une prostitution infâme, trouvent au bagne un théâtre digne de leur dégoûtante volupté. Les argousins, accourus d'abord au bruit, ne se donnèrent pas le moindre mouvement pour arracher le petit matelot des mains des forçats. Aussi mourut-il 4 jours après le départ des coups qu'il avait reçus. Lemière et Simon eussent également péri sans mon intervention. J'avais connu le premier dans l'armée roulante où il m'avait rendu quelques services. Je déclarai que c'était lui qui m'avait fourni les instruments nécessaires pour percer le carreau du fort Mahon, et dès lors on le laissa lui et son camarade en repos. Nous passâmes la nuit sur la paille dans l'église alors transformée en magasin. Les argousins faisaient des rondes fréquentes pour s'assurer que personne ne s'occupait à jouer du violon, si et c'est faire. Au jour, tout le monde fut sur pied. On fit l'appel, on visita les fers. À 6 heures, nous étions placés sur de longues charrettes, dos à dos, les jambes pendantes à l'extérieur, couverts de givre et transis de froid. Il n'en fallut pas moins, arrivés à Saint-Cyr, nous dépouiller entièrement, pour subir une visite qui s'étendit au bas, aux souliers, aux chemises, à la bouche, aux oreilles, aux narines, et à d'autres endroits plus secrets encore. Ce n'était pas seulement des limes en étui que l'on cherchait, mais des ressorts de pendule, qui suffisaient à un prisonnier pour couper ses fers en moins de 3 heures de temps. La visite dura près d'une heure. C'est vraiment un miracle que la moitié d'entre nous n'ait pas eu le nez ou les pieds gelés. À la couchée, on nous entassa dans des étables à bœufs, où nous étions tellement serrés que le corps de l'un servait d'oreiller à celui qui venait après. S'embarrassait-on dans sa chaîne ou dans celle de son voisin, les coups de bâton pleuvaient aussitôt sur le maladroit. Dès que nous fûmes couchés sur quelques poignées de paille qui avaient déjà servi de litière aux bestiaux, un coup de sifflet donna l'ordre du silence le plus absolu. Il ne fallait même pas le rompre par la moindre plainte quand, pour relever un factionnaire placé à l'extrémité de l'étable, les argousins nous marchaient sur le corps. Le souper se composa d'une prétendue soupe aux haricots et de quelques morceaux de viande demi-gâtée. La distribution se faisait dans des baquets de bois qui contenaient 30 rations, et le cuisinier, armé d'une grande cuillère à peau, ne manquait pas de répéter à chaque condamné qui se présentait « 1, 2, 3, 4, tant ta gamelle, voleur !» Le vin fut distribué dans le baquet dont on s'était servi pour la soupe et la viande. Ensuite, un argousin prit un sifflet pendu à sa boutonnière et le fit résonner à 3 reprises en disant « Attention, voleur !» et qu'on réponde par oui ou par non. « Avez-vous eu le pain ?» « Oui. » « La soupe ?» « Oui. » « La viande ?» « Oui. » « Le vin ?» « Oui. » « Alors dormez ou faites semblant. » Cependant, une table se dressait à l'entrée de l'étable. Le capitaine, le lieutenant, les brigadiers argousins s'y placèrent pour prendre un repas un peu meilleur que le nôtre, car ces hommes, qui profitaient de toutes les occasions pour extorquer l'argent des condamnés, faisaient bombance et ne se refusaient rien. L'étable offrait au surplus, dans ce moment, un des spectacles les plus hideux qu'on puisse imaginer. D'une part, 100 hommes parqués comme de vils animaux, roulant des yeux égarés, d'où la douleur bannissait le sommeil. De l'autre, 8 individus à figure sinistre, mangeant avidement, sans perdre un instant de vue leur carabine ou leur bâton. Quelques minces chandelles, attachées au mur noirci de l'étable, faisaient une lueur rougeâtre sur cette scène de désolation, dont le silence n'était troublé que par de sourds gémissements ou par le retentissement des fers. Non contents de frapper à tort et à travers, les argousins passaient encore sur les condamnés leurs horribles gaietés. Un homme, dévoré par la soif, demandait-il de l'eau? Il disait tout haut « Que celui qui veut de l'eau lève la main ». Le malheureux obéissait sans défiance et l'était aussitôt roué de coups. Ceux qui avaient quelque argent étaient nécessairement ménagés, mais c'était le petit nombre, le long séjour de la plupart des condamnés dans les prisons ayant épuisé leurs faibles ressources. Ces abus n'étaient pas les seuls qu'on eût à signaler dans la conduite de la chaîne. Pour économiser à son profit les frais de transport, le capitaine faisait presque toujours voyager à pied un des cordons. Or, ce cordon était toujours celui des plus robustes, c'est-à-dire des plus turbulents des condamnés. Malheur aux femmes qu'ils rencontraient, aux boutiques qui se trouvaient sur leur passage. Les femmes étaient houspillées de la manière la plus brutale. Quant aux boutiques, elles se trouvaient dévalisées en un clin d'œil, comme je le vis faire, à Morlaix, chez un épicier, qui ne conserva ni un pain de sucre ni une livre de savon. On demandera peut-être ce que faisaient les gardiens pendant que se commettait le délit. Les gardiens faisaient les empresser sans apporter aucun obstacle réel, bien persuadés qu'en définitive ils profiteraient du vol, puisque c'était à eux que les forçats devaient s'adresser pour vendre leur capture ou l'échanger contre des liqueurs fortes. Il en était de même pour les spoliations exercées sur les condamnés qu'on prenait au passage. À peine étaient-ils ferrés que leurs voisins les entouraient et leur volaient le peu d'argent qu'ils pouvaient avoir. Loin de prévenir ou d'arrêter ces vols, les argousins les provoquaient souvent, comme je l'ai vu faire pour un ex-gendarme qui avait cousu quelques louis dans sa culotte de peau. « Yagra !» avait-il dit, et en 3 minutes, le pauvre diable se trouva en bannière. En pareil cas, les victimes jetaient ordinairement les hauts cris en appelant leur secours les argousins. Ceux-ci ne manquaient jamais d'arriver, quand tout était fini, pour tomber un grand coup de bâton sur celui qu'on avait volé. À Rennes, les bandits dont je parle poussèrent l'infamie jusqu'à dépouiller une sœur de charité qui était venue nous apporter du tabac et de l'argent dans un manège où nous devions passer la nuit. Les plus criants de ces abus ont disparu, mais il en subsiste encore, qu'on trouve bien difficile à déraciner, si l'on considère à quels hommes est nécessairement confiée la conduite des chaînes et sur quelle matière ils opèrent. notre pénible voyage dura 24 jours. Arrivés à Pont-Alezen, nous fûmes placés au dépôt du bagne, où les condamnés font une sorte de quarantaine jusqu'à ce qu'ils se soient remis de leur fatigue et qu'on ait reconnu qu'ils ne sont pas atteints de maladies contagieuses. Dès notre arrivée, on nous fit laver deux à deux dans de grandes cuves pleines d'eau tiède. Au sortir du bain, on nous délivra des habits. Je reçus comme les autres une casaque rouge, deux pantalons, deux chemises de toile à voile, deux paires de souliers et un bonnet vert. Chaque pièce de ce trousseau était marquée de l'initiale GAL, G-A-L, et le bonnet portait de plus une plaque de fer blanc, sur laquelle on lisait le numéro d'inscription au registre matricule. Quand on nous eut donné des vêtements, on nous riva le manicle au pied, mais sans former les couples. Le dépôt de Pont-Alezen était une sorte de lazarette. La surveillance n'y était pas très rigoureuse. On m'avait même assuré qu'il était assez facile de sortir des salles et d'escalader ensuite les murs extérieurs. Je tenais ces indications d'un nommé Blondy qui s'était déjà évadé du bagne de Brest. Espérant les mettre à profit, j'avais tout disposé pour être prêt à saisir l'occasion. On nous donnait parfois des pains qui pesaient jusqu'à 18 livres. En partant de Morlaix, j'avais creusé l'un de ces pains et j'avais introduit une chemise, un pantalon et des mouchoirs. C'était là une valise d'un nouveau genre, on ne la visita pas. Le lieutenant Terry ne m'avait pas désigné à une surveillance spéciale. Loin de là, instruit des motifs de ma condamnation, il avait dit en parlant de moi au commissaire qu'avec des hommes aussi tranquilles, on conduirait la chaîne comme un pensionnat de demoiselles. Je n'inspirais donc aucune défiance. J'entrepris d'exécuter mon projet. Il s'agissait d'abord de percer le mur de la salle où nous étions enfermés. Un ciseau d'acier, oublié sur le pied de mon lit par un sbire forçat, chargé de river les manicles, me servit à pratiquer une ouverture, tandis que Blondy s'occupait de scier mes fers. L'opération terminée, mes camarades fabriquèrent un mannequin qu'ils mirent à ma place, afin de tromper la vigilance des argousins de garde. Et bientôt, affublé des effets que j'avais cachés, je me trouvais dans la cour du dépôt. Les murs qui en formaient l'enceinte n'avaient pas moins de 15 pieds d'élévation. Je vis que pour les franchir, il fallait donc quelque chose qui ressemblât à une échelle. Une perche m'en tint lieu, mais elle était si lourde et si longue qu'il me fut impossible de la passer par-dessus le mur pour descendre de l'autre côté. Après des efforts aussi vains que pénibles, je dus prendre le parti de risquer le saut. Il me réussit fort mal. Je me foulai si violemment les deux pieds qu'à peine eus-je la force de me traîner dans un buisson voisin. J'espérais que, la douleur se calmant, je pourrais fuir avant le jour, mais elle devenait de plus en plus vive et mes pieds se gonflèrent si prodigieusement qu'il fallut renoncer à tout espoir d'évasion. Je me traînai alors de mon mieux jusqu'à la porte du dépôt pour y rentrer de moi-même, espérant obtenir ainsi une remise sur le nombre de coups de bâton qui me revenaient de droit. Une sœur que je fis demander, et à laquelle j'avouai le cas, commença par me faire passer dans une salle où mes pieds furent pansés. Cette excellente femme, que j'avais apitoyée sur mon sort, alla solliciter pour moi le commissaire du dépôt, qui lui accorda ma grâce. Quand, au bout de 3 semaines, je fus guéri complètement, on me conduisit à Brest. Le bagne est situé dans l'enceinte du port. Les faisceaux de fusils, de pièces de canon braquées devant les portes, m'indiquèrent l'entrée des salles, où je fus introduit après avoir été examiné par tous les gardes de l'établissement. Les condamnés les plus intrépides l'ont avoué. Quel qu'endurci que l'on soit, il est impossible de se défendre d'une vive émotion au premier aspect de ce lieu de misère. Chaque salle contient 28 lits de camp, nommés bancs, sur lesquels couchent enchaînés 600 forçats. Ces longues files d'habits rouges, ces têtes rasées, ces yeux caves, ces visages déprimés, le cliquetis continuel des fers, tout concourt à pénétrer l'âme d'un secret effroi. Mais pour le condamné, l'impression n'est que passagère. Sentant qu'ici, du moins, il n'a plus à rougir devant personne, il s'identifie avec sa position. Pour n'être pas l'objet des railleries grossières, des joies odieuses de ses compagnons, il affecte de les partager. Il les outre même, et bientôt, du ton, des gestes, cette dépravation de convention passe au cœur. C'est ainsi qu'à Anvers, un ex-évêque essuya d'abord toutes les bordées de l'ignoble hilarité des forçats. Il ne l'appelait que Monseigneur. Il lui demandait sa bénédiction pour des obscénités. À chaque instant, il le contraignait à profaner son ancien caractère par des paroles impies. Et à force de réitérer ses sacrilèges, il parvint à s'émanciper. Plus tard, il était devenu cantinier du bagne. On l'appelait toujours Monseigneur, mais on ne lui demandait plus l'absolution. Il lui répondit par des blasphèmes. C'est dans les jours de repos surtout que le récit de crimes, souvent imaginaires, des rapports intimes, des complaisances infâmes, achevèrent de pervertir l'homme que le châtiment d'une première faute expose à ce contact impur. Pour neutraliser les effets, on a proposé de renoncer au système des bagnes. D'abord, tout le monde était d'accord sur ce point, mais lorsqu'il s'est agi de déterminer un autre mode de punition, les avis se sont trouvés singulièrement partagés. Les uns ont proposé des prisons pénitentiaires, à l'instar de celles de la Suisse et des États-Unis. Les autres, et c'est le plus grand nombre, ont réclamé la colonisation en s'étayant des heureux résultats de la prospérité des établissements anglais de la Nouvelle-Galles, plus connus sous le nom de Botany Bay. Examinons si la France est appelée à jouir de ces heureux résultats et de cette prospérité.